Pavillonomane. Le direct.
Bienvenue sur Pavillon Nomade, la radio follement normale. Ici, les idées fusent, les micros s'agitent et les échanges ne tiennent jamais en place, comme je le dis tous les jeudis. Nous sommes en direct jusqu'à 16h30 depuis le studio du Pavillon Nomade. Autour des micros, aujourd'hui, nos participants du jour. Alors, on a des habitués qui sont là. On a Johanna, on a Saphir, on a Isaline. On a Samuel Riner, avec qui nous ferons un peu connaissance tout à l'heure. Bonjour. On a Gabriel. On a Lucien, on a Elvio et à la technique, on a Pascal Vigolo. Aujourd'hui, on va vous proposer un thème en début d'entrée et au programme également nos chroniques phares, les rencontres de Marie-Claude, la minute d'Elvio et notre invité du jour, Samuel Riner, avec qui nous échangerons sur le spectacle The Idle Hour. Il pourra peut-être nous dire comment on prononce ça, courir pour aller là où nous sommes. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par notre émission, émission que vous retrouverez dans son intégralité en rediffusion sur notre site pavillonnomade.ch. Bonjour à tous.
Bonjour. Ouais.
Il fait beau, il fait pas encore si chaud que ça. Hein. On est encore, hein, on a encore les doudounes, mais on est bien là entre nous, autour de cette table, un peu tapissée comme ça. Les sourires sont là, les yeux sont pétillants. Saphir, Johanna, vous nous avez proposé un thème aujourd'hui, un thème qui est quand même pas si facile que ça, je pense. Ça donnera certainement à âpre discussion. C'est apprendre à dire non.
Oui, apprendre à dire non.
Bonjour Saphir.
Voici le sujet. Bonjour. Qu'on vous propose aujourd'hui à toute l'équipe de Pavillon Nomade et à toutes les présentes, les personnes présentes aujourd'hui. Alors, apprendre à dire non, c'est.
C'est pas facile dans tous les cas, déjà suivant l'éducation reçue durant l'enfance.
Sommes-nous influençables, vulnérables?
Ressentons-nous de la honte ou du jugement, voire même la peur de se sentir exclu?
Comment gérer, comment se gérer, de quelle manière dire les choses, comment surpasser tous ces blocages? C'est un peu le thème qu'on voulait aborder aujourd'hui avec Johanna.
Je pense qu'il y a déjà beaucoup dans la valise, là, mais vous-même, est-ce que vous arrivez simplement vous aussi à dire non? Quelle est votre expérience avec ce non?
Pour moi, c'est encore un petit peu compliqué. Johanna, j'essaye d'apprendre à dire non. Dans certains cas, j'y arrive et dans d'autres, c'est encore un peu compliqué. Je dirais que c'est plus compliqué quand on parle, par exemple, dans un groupe qui serait plus la famille. Ouais.
Mais qu'est-ce qui fait dans ce cas-là qu'on n'arrive pas à dire non, Saphir?
C'est vrai qu'on a beaucoup d'appréhension à comment vont réagir les autres personnes. Nous-mêmes, on peut se sentir aussi un peu anxieux, un peu pas à sa place. Et c'est vrai que voilà, personnellement, moi, je suis en plein dans un travail d'écoute de mes émotions, d'analyse. Donc, ça vient de pas mal de ces facteurs aussi, je pense, en tout cas personnellement.
Donc apprendre à dire non, si vous commencez un petit peu à entrevoir un peu ces discussions, c'est aussi mettre des limites.
Oui, mettre des limites, tout à fait. Ne pas aller trop loin, savoir dire stop, et puis aussi que les gens comprennent que quand on a trop plein d'émotions, qu'on a besoin aussi de temps pour se rattraper soi-même.
Vous avez raison. Isaline, vous aviez envie de rebondir sur ce thème qui est apprendre à dire non.
Justement, Saphir disait que c'était par rapport à sa place, peut-être dans le cercle familial où c'était plus compliqué. Je pense que du moment où on a trouvé sa place, il est bien plus facile de dire non. Et un non sans attente de peur, de jugement, de croyance des autres, de reflet de ce qu'on pense, savoir, croire, voir dans les yeux des autres.
Alors, est-ce que parce qu'on a trouvé sa place, on arrive à dire non? Gabriel, bonjour Gabriel.
Alors, bonjour Jimmy. La place du non, c'est vrai que moi je l'imagine, il y a deux thèmes pour moi. Le non, c'est le non dans la famille, quand on est adolescent et qu'on commence à vouloir prendre sa place en refusant, dire non, je ne veux pas. Je trouve que c'est vraiment s'identifier et se définir soi-même. Moi, dans mon expérience professionnelle en tant qu'infirmier, j'ai tout de suite pensé au non quand on doit dire non pour une raison ou pour une autre, qu'on espère bonne, qu'on dit non à un patient, à quel point ça peut être, même du côté de l'infirmier, très très compliqué à faire. Que le non, il soit juste, que le non il soit compris et que le non il n'empêche pas de pouvoir continuer à échanger avec, avec la personne.
Donc vous êtes en train de dire, en quelques mots, finalement, même quand on est professionnel, on peut savoir dire non dans le cadre de sa famille. Hein. Vous disiez, Isaline, tout à l'heure, quand on est dans un lieu sécurisant, on a été reconnu, on a trouvé sa place, on peut plus facilement dire non. Tandis que dans les métiers, que ce soit peut-être de l'institution, n'importe quel métier, dire non à quelqu'un, bah, finalement, c'est pas si inné que ça. Donc, est-ce que à l'école infirmière, vous vous souvenez, est-ce qu'on vous a appris, est-ce qu'il y avait une thématique pour dire non ?
Alors, j'ai pas souvenir parce que je suis vraiment trop vieux pour me rappeler comment c'était à l'école. Alors,
vous êtes trop vieux, Gabriel, vous êtes un peu méchant avec vous-même.
Non, non, vraiment, je mens sur mon âge. Ce qu'on nous explique surtout, c'est que, et là c'est un petit peu difficile, c'est qu'on nous dit qu'il faut pouvoir dire non, il faut pouvoir s'imposer auprès du patient en lui disant non. Or, moi j'ai l'impression que la différence, c'est quand on dit non et qu'on est adolescent dans sa famille, c'est un non pour exister, pour se définir. Mais en tant qu'infirmier, quand on dit non à un patient, on dit non à sa demande, on ne dit pas non à la personne. Et c'est réussir à faire la différence à la personne si on lui dit non, tu ne peux pas, je ne sais pas, peu importe quelle pratique, un truc qui ne marcherait pas dans l'unité, ce n'est pas l'empêcher d'être. Alors que le non de l'adolescent, il va dire non justement pour pouvoir se différencier et exister par rapport à ses parents, par exemple.
Vous avez raison de faire cette différence hein, quand on parle du non, qui est peut-être un non thérapeutique aussi. Hein, le non est des fois aussi bienveillant pour pouvoir éviter aux gens de se mettre en danger, tout simplement, pour poser un cadre et éviter aux gens de se retrouver peut-être avec des comportements ou des mises en danger sur lesquelles on se doit aussi de pouvoir dire un non salutaire. Hein. Alors j'aimerais poser la question aussi à Lucien. Bonjour Lucien.
Bonjour.
Vous êtes actuellement en stage ici à l'hôpital de Manévaux. Vous avez fait 6 mois à l'UPPA2 en psychogériatrie. Est-ce que vous avez dû faire face dans vos échanges à devoir dire non à quelqu'un ? Et si oui, comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été facile ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu plus à l'aise ou pas ?
C'est vrai que c'est une expérience qui est toujours assez intéressante, le fait de devoir dire non, parce que ça peut impliquer certaines fois une frustration en face, une fois qu'un non est posé, même si c'est dans un cadre bienveillant, même si c'est pour le bien de la personne, voilà, ça peut amener à de la frustration. Et puis c'est vrai que étant assez jeune, étant stagiaire, c'est une place où on se sent pas toujours légitime de mettre un cadre, de dire non à quelqu'un qui est plus âgé que soi. Donc c'est une posture, c'est une évolution. Il faut réussir à trouver cette confiance en soi pour dire voilà, là j'ai enfilé une blouse de stagiaire, je suis professionnel et donc c'est pas le nom que je vais donner n'implique pas ma personne en tant que telle, mais plutôt le professionnel, la blouse que j'ai enfilée et puis je dis un nom mais qui est différent de moi en tant que telle.
Merci pour votre partage. Qui souhaiterait rebondir après ces échanges ? Samuel.
Bonjour. Pour moi, je prends peut-être un contre-pied parce qu'en tant qu'artiste de cirque et acrobate, une des choses qu'on nous apprend en école, c'est de dire oui aux propositions et d'accepter énormément les choses qui viennent à nous. Et quand on fait une improvisation et que quelqu'un sur scène nous propose quelque chose, la première chose qu'on fait, c'est dire oui. Et c'est vrai qu'on doit parfois, ou il arrive qu'on arrive à des situations où le corps se met en danger, où on se met en danger en tant qu'acrobate. Et à ce moment-là, il faut savoir dire non à une proposition qui pourrait être intéressante d'un point de vue scénique, mais qui pourrait être dangereuse. Voilà.
Mais c'est très bien ce que vous dites, parce que c'est apprendre à dire oui aussi, hein, parce qu'on a le thème apprendre à dire non, mais apprendre à dire oui, hein, quand on parle de la capacité à pouvoir à un moment prendre position, c'est pas que dans la négation, c'est aussi de comment arriver à dire oui. Gabriel.
Je trouve ça excellent comme remarque, parce que moi, dans les équipes avec qui j'ai eu la chance de travailler, s'il y a quelque chose que j'ai répété tout le temps, c'est à moins d'avoir une excellente raison de dire non, il faut dire oui.
Alors, c'est pas faux. On pourrait dire ça comme ça, Saphir.
Ce que je comprends, c'est vrai que d'apprendre à dire oui, c'est aide aussi à dire non, parce qu'on voit plus, peut-être plus vers le positif que vers le côté négatif de dire non et puis du chemin que ça nous demande.
Ouais. Vous avez raison de dire que ça dépend du chemin. Il en est aussi quelque chose de l'ordre de l'affirmation de soi. On n'est pas affirmé. Faire un oui affirmé, un non affirmé, on peut le faire de manière très différente, hein, que ce soit agressive, pas agressive. Mais il est de l'ordre de se dire, bah, voilà, on apprend année après année avec nos expériences, avec aussi bah, les rencontres, hein, que ce soit professionnel ou dans un cadre, peut-être on fait des activités, ou des fois, hein, bah, voilà, on doit des fois dire non pour une question de sécurité, et oui, pour une question d'ouverture, d'esprit, et de se dire, on va tenter quelque chose. Johanna ?
Bah justement, c'est aussi tenter de nouvelles expériences. Parce que pour moi, par exemple, venir, quand je suis venue pour la première fois à la radio ici à Pavillon Nomade, c'était un petit peu compliqué, mais pour moi, c'était une nouvelle expérience qui m'a fait du bien et qui m'a permis de m'ouvrir encore un peu et de comprendre que j'étais capable de le faire aussi. Et donc, des fois, se surpasser et dire oui aux nouvelles choses, c'est hyper important, quoi.
Donc, vous êtes en train de dire que finalement, apprendre à dire non ou apprendre à dire oui, c'est d'essayer, c'est de s'y confronter, d'essayer pour pouvoir peut-être après avoir le recul de dire mais qu'est-ce qui fait que j'ai dit non et pourquoi j'ai dit non, ou qu'est-ce qui fait que j'ai dit oui et pourquoi j'ai dit oui. Alors, c'est un peu en parallèle, mais je trouve hyper intéressant ce que Samuel nous dit. Mais c'est pas que seulement dire non, c'est peut-être dire oui et puis d'en mesurer un petit peu dans ce oui, bah, et de se mettre des limites. On parlait de limites tout à l'heure. Isaline.
Je dirais que c'était bien d'avoir justement un cadre, que ce soit le cadre familial, le cadre des infirmiers, n'importe quel cercle, mais de pouvoir justement apprendre à danser un petit peu avec ce cadre et qu'il soit en mouvance comme la nature, comme tout ce qui nous entoure, qu'il ne soit pas fermé et strict afin qu'il ne soit pas contre-productif dans les soins, dans les liens, dans l'entraide qu'on peut avoir les uns avec les autres.
Oui, vous avez raison, et apprendre à dire non, c'est aussi faire preuve de ses limites, hein. Parce que si on commence à dire oui à tout, je prends l'exemple de gens qui sont bienveillants, qui au bout d'un moment ont cette tendance à vouloir aider l'autre, et puis ils s'en oublient un petit peu, et à force de dire oui, on dit oui, on dit oui, au bout d'un moment, on arrive à s'épuiser, et puis on peut aussi finir par être épuisé. On parle de burn-out, on parle de peut-être même de dépression, hein. Est-ce que tout ça est lié ou non? Je pense pas, mais disons que ça a quand même son impact dans la discussion. Safi, hein.
Tendance aussi à s'oublier soi-même et puis à avoir beaucoup de culpabilité aussi envers soi-même. C'est vrai que on laisse beaucoup moins de choses rentrer en nous en fait en étant dans ces états-là, parce qu'on a un champ des possibles qui est vraiment restreint par rapport à l'habitude. Oui.
Ben merci. D'autres échanges, d'autres. Gabriel.
Alors, je me posais la question, Saphir, quand tu étais en train de parler, est-ce que c'était même possible de pouvoir penser non et de faire non tout en disant oui, et que c'est pas aussi simple, et même des fois on dit non mais on a envie de dire oui. Alors, je suis pas en train de parler forcément de consentement, mais des fois les gens disent oui, mais au fond ils ont pas vraiment, ils ont dit oui parce qu'ils voulaient pas décevoir l'autre, etc. Et ils auraient dû savoir dire non. Et dans le soin, en tout cas, dans l'approche de l'autre, c'est un truc important, même de savoir est-ce qu'il a vraiment voulu dire oui, est-ce qu'il a dit non, est-ce que tu es sûr de ce que tu veux?
Effectivement, c'est tout à fait, je ressens tout à fait ce que vous dites. Après, je dirais que ça se joue pas mal dans l'éducation et puis aussi dans la confiance et dans le manque de confiance de soi-même. Alors, je pense quand même que c'est un exercice qu'il faut répéter quand même plusieurs fois avec des professionnels avant qu'ils soient ancrés et puis que ça puisse devenir un peu plus un fonctionnement naturel.
Mais vous avez raison, apprendre à dire non, c'est quand même pas quelque chose d'inné si facile. Moi, je prends l'exemple avec mes enfants, il y a plein de choses où je m'étais dit jamais je ne serai comme mon père ou ma mère, je ne ferai pas comme ça, je ne dirai pas ça. Et puis, c'est m'arrivé des fois d'avoir des moments où je dis, oh, mon Dieu, j'ai l'impression que c'est mon père qui parle à ma place. Mais c'est pas évident de dire non. Et peut-être une des pistes hein, pour ceux qui nous écoutent, de dire bah, finalement, peut-être ne pas tout de suite répondre à une demande. On a tendance à vouloir être dans l'immédiat, de tout de suite quittancer, de tout de suite faire, mais dans un système aussi qui nous pousse peut-être à ne... on dit souvent on n'a pas le temps. Non, on ne prend pas le temps. Moi, je vous propose, c'est quand on vous pose des questions et que ça vous met comme ça dans une espèce d'ambivalence ou un conflit comme ça, de dire, écoutez, je ne veux pas vous répondre maintenant, je prends un petit instant, on prend les moments pour réfléchir. Moi, ça m'arrive avec les enfants, quand ils me posent la question, je dis, mais des fois, j'ai répondu trop rapidement, puis maintenant, j'essaye, hein, je dis bien j'essaye, parce que c'est souvent le cordonnier le moins bien chaussé, j'essaye de pouvoir me dire, stop, je vais en discuter, pourquoi je vais dire oui, si je dis oui, pourquoi je vais dire oui, et si je dis non, pourquoi je vais dire non, et qu'est-ce que je vais donner comme sens à ce non? Parce que simplement dire non, oui, on peut vous dire non, mais est-ce que finalement... Apprendre à dire non, c'est parce qu'on a aussi appris à expliquer pourquoi on disait ce non. Alors je vois Gabriel qui hoche de la tête. Gabriel,
je me demandais si c'était pas plus facile de commencer par dire non pour après dire oui, plutôt que de dire oui, 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 et puis après de finalement dire non après. Je pense qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre. Enfin, je crois.
Alors, je ne sais pas, Isaline, vous étiez en train de dire je ne sais pas. Que veut dire cette ouverture des mains?
Que c'est vrai que dans un sens, le oui peut être des fois autant facile à donner que ça. Mais tant qu'on sait comment communiquer après avec l'enfant ou avec le patient avec qui vous voulez en face, de pourquoi ce oui ou pourquoi ce non, de toute façon, s'il part spontanément du cœur, en général, c'est comme une bonne décision, qu'on soit infirmier, avocat, pape ou je ne sais pas.
Gabriel?
Je ne sais pas si le pape il dit souvent non ou oui. Enfin, je n'ai pas de gros recul sur le pape. Jimmy, t'en as un ?
Alors, moi, j'en ai pas. En tout cas, je n'ai pas de recul sur le pape. Mais par contre, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques minutes après cette magnifique chanson de Zilly qui s'intitule « Je ne serai jamais ».
Jamais cette fille qui tu demandes, veux-tu danser? Veux-tu danser avec jamais crainte, jamais cette fille à qui tu demandes. Veux-tu danser? Veux-tu danser avec moi? Non, je serai celle qui essaye d'être une grande, viser le ciel sans qu'on lui demande. Veux-tu le toucher? Je veux le toucher, moi. Je veux le toucher, moi.
De retour sur les ondes de Pavillon Nomade après cette magnifique chanson de Zélie, Je ne saurais jamais. Je ne connaissais pas cet artiste, mais cette petite voix veloutée comme ça m'a donné envie d'aller la découvrir. On va parler de mouvement maintenant, mais aussi paradoxalement de pause. Dans un monde où tout va toujours plus vite, où l'on court souvent sans trop savoir vers quoi, certains artistes choisissent justement de s'arrêter, d'observer et de transformer cette tension en création. C'est le cas du spectacle de... Alors, Samuel Riner, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais peut-être un petit peu bafouiller sur le... Vous allez m'aider. The Idle Hour, The Idle Hour.
The Idle Hour.
The Idle Hour. Vous avez vu comme c'est quand même plus sexy quand c'est Samuel qui le prononce. Courir là où nous sommes, proposé par la compagnie Motus Murmuri, un spectacle de cycle contemporain, sans parole, mais loin d'être silencieux, où le corps, le mouvement et même une roue de hamster, alors ça j'ai été étonné, on en parlera, à taille humaine, devient les témoins d'une course un peu folle, celle de nos vies modernes. Bonjour Samuel Riner.
Bonjour.
Vous êtes actuellement en résidence au MQC. Pour commencer, comment êtes-vous arrivé à choisir ce lieu de résidence?
Alors, j'ai grandi à Colombey, donc je suis de pas très loin d'ici. Et j'avais entendu parler du lieu de résidence ici. Je suis parti faire mes études à l'étranger. Et c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis que je suis parti à l'étranger, de revenir pour travailler et surtout de revenir dans un lieu comme ça. J'apprécie énormément le côté hybride de ce lieu. Où les patients sont dans un lieu à partager avec les artistes, avec en fait tout un petit monde. Et je trouve ça vraiment riche, et pour nous et pour les patients. Ouais, voilà. Pour moi, c'est quelque chose de très, très riche.
Eh ben, merci. Je ne savais pas que vous étiez natif de la région, hein, parce qu'on m'a dit que c'était une compagnie internationale basée en Valais, hein, une jeune compagnie. Hein. Comment est-elle née et quelle est votre identité artistique aujourd'hui?
Alors, la compagnie, elle est née il y a... une année et demie, donc en début 2025. Et en fait, la raison pour laquelle la compagnie est née, c'est parce que, bah évidemment, pour faire un spectacle de cirque ou un spectacle d'art vivant, il faut des fonds. Et pour avoir des fonds, il faut une structure légale. Donc ça, c'est la raison de la création de la compagnie. Et avant ça, moi, j'étais déjà artiste de cirque. Ça fait maintenant 6 ans que je suis sorti d'école et que je suis professionnel et que je tourne à temps plein en tant qu'artiste de cirque. Et après avoir fait plusieurs créations dans différentes compagnies en tant qu'interprète ou en tant que co-créateur. Il y a 2 ans à peu près, je me suis dit « Ok, c'est le moment de lancer dans une création en tant que directeur artistique. » Et voilà, donc j'ai contacté un ami qui est aussi un collègue à moi avec qui on s'entend très bien et sur scène et en dehors de scène. Et je lui ai proposé de faire un duo et il a accepté, il a trouvé l'idée sympa et... Et à ce moment-là, bah, j'ai décidé okay, de créer la compagnie et on a lancé le projet.
Magnifique projet d'ailleurs, parce que vous parliez d'école de cirque et le mouvement. C'était un mouvement qui suivait de créer ce spectacle. Vous parlez d'un murmure du mouvement. Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans votre travail?
Dans mon approche des arts vivants et du cirque, je trouve très intéressant de mélanger la musique, le son avec le mouvement. Et ça se retrouve aussi dans la discipline que j'ai choisi de faire, qui est l'acrodanse, qui est déjà entre la danse et le cirque. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est très stéréotypé. Disons que je n'ai pas décidé de faire du trapèze ou du jonglage comme ce que les gens pourraient imaginer quand ils pensent à cirque. Mais je suis déjà dans une discipline qui est un peu en marge du cirque. Et ce qui est assez symbolique du cirque contemporain, où on s'approprie d'autres disciplines, on s'approprie la danse, on s'approprie les arts visuels, on s'approprie la musique, et en tout cas on l'utilise peut-être plus que de se l'approprier, on l'utilise dans nos créations pour faire des créations qui sont un peu plus hybrides peut-être.
Ouais. Ouais, plus hybride, tout à l'heure, on parlait dans notre premier terme de comment dire oui ou comment dire non, hein, finalement. On est dans le verbal. Hein. Votre spectacle de Idle Hour, entièrement non-verbal, à l'époque où tout se passe beaucoup par les mots, pourquoi avoir fait le choix du corps?
C'est quelque chose que je trouve aussi magnifique dans le cirque contemporain, c'est qu'on a la possibilité d'offrir ce spectacle à un public qui est très large parce qu'il n'y a pas de texte. On peut aller jouer... On peut venir ici, on peut aller à un endroit où les gens ne parlent pas forcément français ou anglais ou une autre langue. On peut jouer devant des enfants On peut jouer devant des personnes qui sont sourdes. On a vraiment la possibilité d'offrir ce spectacle à un public qui est très très large de par le choix de faire du mouvement et pas du texte.
Donc on pourrait dire hyper inclusif.
C'est ça, oui.
Ben c'est très bien. Revenons un petit peu sur ce titre, « Courir là où nous sommes ». Ça sonne presque comme un paradoxe. Qu'est-ce que ça raconte pour vous ?
Courir pour aller là où nous sommes, c'est en fait... Ça, c'est venu beaucoup plus tard dans le processus créatif. L'idée de base, c'était de parler de cette course effrénée qu'on a et qui est dans la société, qui est très présente. On est poussé à produire plus, plus vite. Et je me suis dit, ça serait intéressant de parler de cette course. Et en fait, la raison pourquoi j'ai choisi de bosser avec William, qui est mon collègue pour ce spectacle, c'est qu'il a une capacité à être dans le présent qui est largement supérieure à la mienne. Et moi, j'ai une grande force et je suis capable d'aller très loin, mais j'ai beaucoup de difficultés à m'arrêter. Et en fait, ce contraste, c'est quelque chose dont je voulais parler, dont je voulais faire... je voulais en parler de cette difficulté à s'arrêter. Et en fait, je cours, mais je vais nulle part. Et lui, il est capable d'être.
Eh bien, c'est beau. On a hâte peut-être de découvrir. On citera les dates tout à l'heure et les lieux de représentation. Gabriel.
Pour rebondir avec la discussion qu'on avait avant, ça veut dire que dire non avec le corps, dire non, c'est quelque chose qui... Parce que vous avez dit, j'arrête pas à m'arrêter, vous n'arrivez pas à dire non ou...
Oui, il y a un peu de ça, effectivement. Et parfois, c'est le corps qui dit non, où il y a des blessures et ça fait qu'on n'a plus de possibilité d'avancer, ou la fatigue. Mais c'est vrai que je dirais que j'ai beaucoup plus de facilité à dire oui qu'à dire non. Et ce qui est aussi un chouette contraste que j'ai avec William, qui a plus de facilité à dire non et à poser ses limites.
Oh, ok, merci.
Merci. J'en parlais tout à l'heure dans l'introduction de ce qui m'avait fait rire, de cette fameuse image forte de la roue de hamster. On y voit facilement une métaphore de nos vies, mais comment est-elle arrivée dans la création ?
J'étais en train d'assister à un concert de musique classique qui était magnifique. Et mon esprit était en train de vagabonder, j'arrivais pas à apprécier le moment. Et je visualisais une sorte de tapis roulant qui défilait sous mes pieds. Et je me suis dit, oh, il y a quelque chose à faire là, il y a peut-être moyen d'exploiter cette idée et d'en faire un chouette spectacle. Et en fait, quitte à avoir un tapis roulant qui est courbé et qui vient sous nous, autant faire quelque chose qui passe par-dessus en même temps, et donc d'avoir une roue. Et ça rejoint aussi un peu l'objet de la roue de la mort, qui est un objet traditionnel du cirque, ou du cirque traditionnel. Et on a décidé de revisiter cet objet de manière un peu plus contemporaine.
Je trouve ça super beau. Elvio ?
En fait, cet objet, c'est vous qui l'avez conceptualisé, créé, en fait ?
Alors, j'ai malheureusement pas la capacité de souder le métal, mais j'ai fait le dessin de l'objet et j'ai conceptualisé ça. On en a beaucoup discuté avec William pour arriver à une sorte d'objet qu'on imaginait qui nous donnerait le plus de possibilités acrobatiques. Mmh. Et aussi avec les contraintes c'était important qu'on puisse transporter l'objet, qu'il soit montable, démontable, pour pouvoir faire une tournée avec ce spectacle. Et après avoir designé l'objet comme ça, on a contacté un constructeur qui est aussi soudeur et qui avait fait une formation d'ingénieur. Donc il avait tous les outils pour pouvoir le faire de manière sécure et solide. Et donc à ce moment-là, on lui a donné l'idée et plus ou moins les dimensions qu'on avait envie. Et puis on a fait quelques essais avec lui et après il a fait la construction.
En parlant d'essais, ça fait quand même quelques jours que vous êtes en résidence. Là, vous êtes en résidence pour une période de... au MQC.
On est là pendant 2 semaines.
Pendant 2 semaines, là, vous avez entamé la première.
C'est ça.
Oui. Sur scène, cette roue, ça représente plutôt une contrainte ou une forme de liberté paradoxale ? Parce que c'est quand même pas courant d'avoir cette roue de hamster.
Alors, sans la roue, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile pour nous de créer un spectacle, surtout pour moi en tant que jeune metteur en scène. Le fait d'avoir un objet, c'est vraiment une ouverture au champ des possibles. Et en fait, de par l'objet, on a eu des dizaines et des dizaines d'idées qui apparaissaient simplement parce que Il y a plein de choses qui viennent. C'est comme, comment dire, c'est une sorte de miroir d'idées. L'objet, il nous permet de... Ouais, il y a énormément de choses qui sont possibles et qui ne seraient pas possibles si on n'avait rien. Et de produire pour moi sans point de départ, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile.
Est-ce que vous avez des roues en rechange? Parce que j'imagine que le travail est super bien fait, mais est-ce que vous avez pensé, on ne sait jamais, peut-être après la Xème représentation, la roue est voilée, et puis elle est, finalement, on pourra toujours en faire quelque chose. Est-ce que vous avez des roues de rechange? Est-ce que...
Alors la roue elle-même, qui fait 350 kilos, on n'en a qu'une.
350 kilos, effectivement, je pense que si on doit la mettre dans la R4, ça rentrera pas, non ?
C'est ça. Mais par contre, il y a plusieurs roulettes qui soutiennent la roue et qui la guident. Et pour le coup, on a des roulettes de secours. On a une sacoche avec une dizaine de roulettes au cas où. Et j'ai gardé encore précieusement le numéro de téléphone du constructeur au cas où.
Est-ce que vous avez une bonne assurance aussi ?
Oui.
Gabriel.
Alors du coup, j'ai pas compris, c'est une roue, mais elle roule pas. Il y a des roulettes pour la... J'arrive pas à me figurer le truc.
Alors c'est vraiment une roue de hamster donc qui tourne sur place.
D'accord. Donc on est dedans et puis...
Et c'est ça.
On court
et
dedans.
Si on veut courir, on peut courir, mais on n'avance pas, on reste sur place.
Je suis assez convaincu que ce serait un peu casse-gueule si j'essayais, quoi.
Alors, c'est totalement casse-gueule, oui.
Bah, peut-être qu'il y a une invitation, hein. Peut-être qu'ils sont en résidence encore toute la semaine, hein, Gabriel, si vous avez envie d'aller essayer, ou s'il y a des gens qui ont envie d'aller essayer.
C'est ça, j'ai aucune raison de dire non.
Est-ce qu'on peut venir essayer?
Alors, c'est tout à fait possible de venir essayer sous notre supervision, bien évidemment, pour des raisons de sécurité.
Bien sûr, mais moi, ça me titille, mais j'aurai malheureusement pas le temps, je vais être frustré. Mais si Gabriel, il y va, j'ai hâte qu'on aura quand même quelques images. Selon vous, est-ce un spectacle qui peut faire du bien ou amener une réflexion sur notre manière de vivre?
C'est une très bonne question. Je pense qu'on a décidé de créer ce spectacle sans forcément vouloir donner une morale. Et donc, c'était plutôt un point de départ de réflexion pour nous-mêmes. Mais je suis assez certain que plusieurs personnes vont se poser des questions sur leur vie et leur manière d'aborder leur travail et leur vie globalement. Mais ça reste un spectacle qui est... c'est une métaphore, disons. Et donc, il n'y a pas d'ambition de donner un message moralisateur.
Ben merci. Saphir ?
Ça fait depuis combien de temps que vous êtes intéressé à vos pratiques, par exemple à l'expression corporelle?
Alors j'ai commencé en tant qu'artiste de cirque professionnellement, ça fait 7 ans ou 6 ans et demi. Mais évidemment, avant de devenir professionnel, il y a eu tout un parcours qui a commencé quand j'étais assez jeune. Je devais avoir 10 ans, quelque chose comme ça. Et il y a une école de cirque qui est à Montet, pas loin d'ici, qui a ouvert. Un des voisins de où j'habitais allait à l'école de cirque une fois par semaine. Et je me suis dit, oh, ça a l'air sympa, ça, je suis allé voir. Et à partir de là, chaque année, je faisais une heure de plus par semaine dans cette école, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, il faut que j'en fasse mon métier. Et donc, je suis parti à l'étranger pour faire une formation professionnelle.
Bah, d'ailleurs, ça pourrait dire, est-ce qu'autour de la table, il y a des gens qui ont fait l'école de cirque? Parce qu'on serait étonné, hein, comme le monde est petit, hein, le Valais n'est pas très grand, mais le monde est surtout très petit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait l'école du cirque? Ou qui auraient aimé faire l'école du cirque, peut-être? Alors, on va donner un micro à Lucien.
Bah alors, c'est pas moi directement qui ai fait l'école du cirque, mais c'est mon petit frère qui est actuellement à Montréal, à l'ENC, donc l'École nationale de cirque, qui fait de la planche hongroise. Et qui a débuté alors à Chara, pas à Montet, vu que j'habite pas loin. Et du coup, il a débuté à Chara, il est passé par Lausanne, et maintenant il est à Montréal. Et il est finissant cet été, il termine son diplôme et il partira faire des créations ici en Europe, ou bien là où le vent le mène.
Ou au Cirque du Soleil, peut-être.
Exactement.
Parce peut-être. Que pour nos auditeurs qui nous écoutent, et peut-être autour de la table, la planche hongroise. Alors moi, on me parle de planche et hongroise, je ne sais pas tellement comment associer les deux. J'ai une petite idée, vous me direz si c'est ça. Est-ce que c'est la planche sur laquelle est posée sur un tube et on doit tenir en équilibre, ou ça n'a rien à voir?
Alors ça ressemble un petit peu, c'est effectivement une planche qui est posée sur un socle, et puis en fait ça se pratique à deux, et puis ils vont sauter chacun de leur côté et faire des acrobaties.
Ouais, alors donc c'est pas, ça n'a rien à voir avec ce. Peut-être, Samuel, vous allez peut-être nous dire ce que je parlais de moi, c'est un nom particulier. Ça.
Que tu faisais référence au Rollabola ?
Rollabola, peut-être c'est ça. Ok, alors rien à voir. Rollabola, c'est cette planche qui est sur un tube et puis on doit regarder l'exercice, puis les gens ils jonglent, ils font des portées.
Okay. C'est une discipline qui existe encore effectivement dans le cirque, qui est plutôt, je dirais, associée au cirque traditionnel, même s'il y a des acrobates et des circassiens contemporains qui font du Rollabola.
Parce que j'avais ça, puis la planche hongroise, je crois que j'ai vu ça, moi, pour la première fois, c'était dans cette émission que tout le monde connaît sur M6, Incroyable Talent, où j'avais vu effectivement des gens mais faire des sauts, mais juste, moi je pense qu'il faut être un petit peu casse-cou, ou je sais pas, hein, moi j'en ai fait aussi des choses qui me mettaient en danger, là c'est fait par des professionnels, ils sont entraînés, mais c'est vrai que ça, c'est impressionnant de voir comment ils arrivent à sauter en parallèle, à faire des périlleux, des figures, en tout cas, chapeau. Hein. Johanna.
Alors, je me demandais aussi, avec Saphir, quel rapport vous avez avec votre public ? Est-ce que ça a été facile au début de performer devant le public ?
Je dirais que je suis quelqu'un d'assez timide, ce qui peut être assez contre-intuitif pour un performeur, pour quelqu'un qui est sur scène. Et donc, au début de ma carrière, c'est vrai que c'était difficile d'entrer sur scène sans être complètement sous le trac et stressé. Mais c'est quelque chose qui s'entraîne. Et il y a une forme d'habituation aussi au stress. Et c'est vrai que plus on est à l'aise avec ce qu'on fait, et moins il y a de surprises. Et donc, moins il y a de stress. Et à ce moment-là, c'était plus facile pour moi de jouer et pas d'être en train de réfléchir ou de m'analyser en train de jouer. Dans les spectacles qui ont beaucoup tourné, j'ai vraiment vu une évolution entre le début de la tournée et la fin de la tournée, où plus la tournée avançait, plus la qualité du spectacle était élevée, parce qu'on n'était plus en train d'effectuer une chorégraphie, mais on était vraiment en train de jouer un spectacle. Et là, on est à un moment pour The Idle Hour où on se rapproche de la première, et donc le stress, il est assez haut, parce qu'on n'a presque pas joué le spectacle. Encore, on n'a fait que quelques étapes de travail pendant la création. Voilà.
Ben merci. Et pour celles et ceux qui hésitent encore, hein, parce qu'on a donné un petit peu envie en parlant de tout ça, pour ceux qui hésitent encore, pourquoi ne faut-il surtout pas rater ce spectacle et surtout les dates, le lieu de la représentation ? D'ailleurs, si je ne me trompe pas, vous l'avez cité, la première date en Suisse, ça va être ici,
c'est ça.
Au Théâtre du Racour.
La première date en Suisse et en fait dans l'univers.
c'est dans l'univers, oui.
Ça sera le 11 avril. Samedi 11 avril, et le dimanche, on fait une deuxième représentation, 12 avril. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas rater ce spectacle ? Je pense que c'est une petite revisitation du cirque par un circassien local, ce qui est déjà chouette. Et c'est quelque chose que vous ne verrez pas souvent. Effectivement, moi, je n'ai pas encore vu de spectacle avec une roue de hamster comme ça. Oui, voilà, c'est fun.
C'est déjà, il n'y a rien que deux choses. Un enfant du pays et on n'a jamais vu de roue d'hamster comme ça sur scène. En tout cas, on arrive au terme de notre échange. Merci Samuel Riner d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Ce spectacle nous rappelle quelque chose d'essentiel. Dans un monde où tout va très vite, prendre le temps de ralentir, de ressentir, devient presque un acte à part entière. De Idle Hour, courir là où nous sommes, proposé par la compagnie Motus Murmuri, nous plonge justement dans cette tension avec une écriture du corps à la fois poétique et universelle. Un spectacle sans parole, mais qui en dit beaucoup. Et qui laisse à chacun la liberté d'y trouver son propre écho. Venez le découvrir le 11 et 12 avril au Théâtre du Racco. Vous aviez envie de rebondir il me semble que je vous ai vu lever la main, non ? Ah non, alors non, c'est comme ça. Moi, pour faire le pont, j'ai envie de dédier cette chanson qui a suivi, parce que qui dit monde du cirque dit aussi clown. J'ai été, mais alors c'est pour ma fille Lou, pour qui je dédicace cette chanson, qui est arrivée un jour dans le salon, habillée en clown, qui nous avait mis la chanson. Elle devait avoir même pas 5 ans, et avec son nez rouge, et elle nous a mimé la chanson entière, sans parler, sans mots, c'était que du mouvement. C'était magnifique. On se retrouve après cette magnifique chanson de soprano qui s'intitule Clown.
Désolé, ce soir, je n'ai pas le sourire. Je fais mine d'être sur la piste malgré la routine. J'ai le maquillage qui coule, mes larmes font de la lessive sur mon visage de clown. Je sais bien que vous n'en avez rien à faire.
mais mon est rouge.
Comme tous les jeudis, on retrouve les rencontres de Marie-Claude. En effet, chaque jeudi, Marie-Claude Cudry va à la rencontre d'une personne qui se raconte autour de Malévo. Aujourd'hui, c'est Éric Giraudet qui s'est prêté aux questions, au jeu questions. Éric est infirmier ici à Malévo. Il nous parle ici de son travail quotidien.
Les rencontres de Marie-Claude.
Le matin, lorsqu'on arrive à 7 heures, on prend les transmissions de l'équipe de nuit. Et puis ensuite, on se transmet les informations entre nous. On organise la journée, on se distribue le travail. Il y a une personne qui distribue les médicaments. Souvent, elle est associée à une autre qui va soit faire les prises de sang, les prises de tension. Alors en semaine, il y en a un petit peu moins, on les réserve plus sur le week-end parce que c'est un peu plus calme. Il y a un tour qui est fait pour réveiller les patients et patientes, pour voir si tout le monde est là, si prendre un peu la température du service, voir un peu l'état de chacun et chacune. Il y a aussi une personne qui va au petit déjeuner à partir de 8 heures, et puis qui reste auprès des patients dans les zones communes. Et puis ça se déroule comme ça la matinée. À 9h moins le quart, il y a la personne qui a été référente le matin pour les transmissions, va aux transmissions avec les docteurs. Là, c'est les urgences. C'est juste ce qui est le plus important. Et puis, après cela, à partir de 10 heures, il y a des entretiens médico-infirmiers. C'est-à-dire que chaque infirmière-infirmier a un certain nombre de patients-patientes en référence sur le poste. Pareil pour l'après-midi. Alors parfois, ça peut faire jusqu'à 3 entretiens médico-infirmiers. Donc ça, c'est un peu lourd. Sur deux points, hein. Déjà, aspect chronophage, Ça va être entre une demi-heure et trois quarts d'heure par entretien. Donc, ça fait beaucoup de temps qui est pris. Ensuite, il y a la retranscription. Donc, c'est beaucoup de temps consacré à deux, trois personnes en particulier. Et puis, parfois, les trois, quatre autres que nous avons, on les voit moins. Donc, c'est ce moment-là où on va essayer d'aller un peu plus vers les personnes qu'on risque de ne pas voir après. Ensuite, à midi, nous distribuons les repas. Il y a deux personnes qui mangent avec les patients-patientes. Il y a une personne qui souvent, c'est l'horaire M, donc celui qui fait 10h-19h, qui monte à la cafétéria manger avec une personne. C'est ce qu'on appelle le repas thérapeutique. Je reviendrai sur l'horaire M. Et puis, début d'après-midi, il y a les médicaments à 13h. 14h30, il y a les transmissions. À 15h24, l'équipe du matin s'en va. Voilà, sinon, les autres jours, à partir de 14h30 pour l'équipe du soir, on lance le travail auprès des personnes. Donc, il y a une répartition des tâches et des références. Il y a une personne ensuite qui fait le tour, une qui note, on a une feuille en plastifié où on note les références en fonction des chambres. Comme ça, les noms des personnes n'apparaissent pas. Comme ça, chaque patient-patiente sait quel va être son référent ou sa référente pour le poste. Pareil le matin, je ne l'ai pas dit, mais on note aussi le matin après la répartition, juste après les transmissions à 7h30. Et puis ensuite, on se lance dans les activités thérapeutiques. Il peut y avoir des entretiens médicaux infirmiers, on a un peu moins l'après-midi. Donc c'est un moment un peu plus privilégié à passer auprès des patients-patientes. On gère tout le fonctionnement de l'unité, des personnes qui demandent plus de présence, plus de soins. Il y a aussi des soins somatiques qui entrent en jeu. Je crois que la prévalence des pathologies somatiques, c'est de 40% chez les patients en psychiatrie. Donc c'est énorme. Et nos docteurs sont très très attentifs à ça. Très attentifs. L'attention à l'aspect somatique est plus importante en psychiatrie que l'attention aux soins psychiatriques en somatique. Probablement par méconnaissance ou par peur, parce que c'est le reflet de la société. La société a peur de la maladie psychique, et je pense que c'est lié au fait que chaque individu a peur de cette maladie. Le problème, c'est que ça crée des biais, parce que du coup, à la fois on veut cacher ça, à la fois c'est tabou, à la fois les personnes qui ont vécu des difficultés sont pas toujours réacceptés normalement dans la société. Et voilà, donc ça crée quand même beaucoup de biais et de travers. Je digresse, mais voilà, donc là, les journées, j'en étais à l'après-midi, donc des entretiens, des soins. À 17h, il y a à nouveau des traitements. Ensuite, il y a le repas à 17h45. Dans notre unité, il est avancé d'un quart d'heure. Là aussi, on accompagne les personnes. Après le repas, il y a un moment là où on essaie de faire des notes, des annotations. À 19h, il y a à nouveau des traitements. En soirée, il y a parfois des entretiens ou des activités type NADA. NADA, c'est un processus d'acupuncture au niveau des oreilles qui a tendance à tranquilliser et détoxifier certains organes. Et la soirée, alors voilà, à partir de 20h30, 21h, c'est souvent un moment où on fait pas mal d'annotations, on essaie d'être vigilant aussi, parce que la soirée est parfois un moment difficile pour les personnes psychiquement touchées. L'arrivée de la nuit, le fait de que se profile, le fait d'aller dormir, donc il y a d'autres enjeux qui sont là, auquel on doit être attentif. Voilà. Après, il y a l'équipe de nuit qui arrive à 21h45, il y a une transmission, et puis ensuite on s'en va à 22h.
Un quotidien rythmé pour Éric Giraudet, infirmier ici à Malévo. On va le retrouver pour le dernier épisode jeudi prochain au micro de Marie-Claude Cludry. Et à l'issue du dernier épisode, vous retrouverez l'intégralité de cette rencontre sur le site pavillonnomade.ch. Alors, on a attendu énormément de choses, organisation de la journée, tension, prise de sang, des week-ends plus calmes. On a aussi entendu un nombre de patients référents, trois infirmiers. Ici, dans les unités, c'est des unités de 24-25 patients. On a aussi entendu parler de repas thérapeutiques. quelqu'un important, pourquoi on pourra échanger autour ensemble. Liste des référents aussi, hein, pour les patients accrochés au mur. Et puis, on a entendu quelque chose aussi qui m'a aussi encore, mais qui me touche à chaque fois, c'est société, peur de la maladie psychique, cachée, tabou. Voilà un petit peu cette échéance. Comment vous réagissez autour de la table à bas, déjà, à cet opus qu'on vient d'écouter, Gabriel?
Moi, ça me parle bien. Avec Lucien, on discutait et il me disait que c'était à peu près la même chose en psychiatrie de l'âge avancé. Et je lui répondais que c'était un petit peu la même chose en pédopsie. Je pense que c'est une organisation qui se retrouve un petit peu partout dans le soin. Ça donne l'impression justement que c'est standardisé, que toutes les journées vont se ressembler, etc. Alors qu'en vrai, quand on bosse, non. Les journées ne se ressemblent pas et c'est loin d'être standardisé, mais justement parce qu'il y a de l'humain, mais des fois beaucoup d'humain, et puis des fois parce que c'est compliqué pour tout le monde, mais en tout cas, c'est riche.
Oui, merci. Saphir ?
Oui, et puis je voulais dire, c'est vrai que quand on a un espèce de cadre, on a l'impression que les journées se ressemblent. Bon, j'en suis bien la preuve étant hospitalisé encore actuellement, mais qu'en même temps, c'est des structures, c'est des habitudes qu'on peut reprendre aussi, des habitudes quotidiennes, des journalières qui nous aident à manger à midi par exemple, à déjeuner le matin. Donc c'est répétitif, mais ça a son sens. En tout cas, moi je le vois. Pour mon cas.
Ouais. D'ailleurs, Saphir, si vous voulez bien garder le micro quelques secondes, quand on parle de repas, reprendre des habitudes, les repas thérapeutiques, j'imagine que vous avez eu l'occasion d'en faire.
Oui,
quelle importance ça a et finalement, qu'est-ce que ça change finalement de faire ce repas quand on parle de repas thérapeutiques, hein, c'est un moment privilégié où le soignant va avec un bénéficiaire en soins pour manger. Peut-être, on pourrait dire de manière un peu intime, comme ça, on partage un moment très spécifique. Qu'est-ce que ça apporte et comment vous le vivez, vous, si vous l'avez vécu?
Alors, moi, ça m'a évité d'aller manger dans mon coin tout seul, sans regarder les autres. On apprend après à se mettre en table avec un plus petit groupe de personnes dont on a confiance. Après, éventuellement, avec des soignants. Et ouais, c'est vrai que ça m'a quand même aidé à me resocialiser un petit peu quand même.
Merci. Alors, je ne sais pas pour les autres, est-ce que vous avez envie de rebondir un petit peu sur ce qui s'est dit, notamment peut-être sur cette crainte que la société a peur de la maladie psychique. Est-ce qu'on est encore aujourd'hui, en 2026, encore avec... Alors, bien sûr, on est parti de vol au-dessus d'un nid de coucou qui stigmatisait dans les années 75 énormément la psychiatrie, hein, avec une prise en charge qui n'était pas celle qu'on a aujourd'hui, des médicaments aussi qui on pourrait dire, tassaient, où les gens étaient un petit peu comme ça. Aujourd'hui, 2026, on en est où ? Lucien. Après, on donnera la parole à Gabriel.
Je pourrais dire que de mon expérience, quand j'ai annoncé à mon entourage ou bien les gens que je connaissais que j'allais venir faire un stage de 7 mois en hôpital psychiatrique, en fait, la première réaction des gens en face, c'est « Oula, courage, ça va être dur, ça va être difficile ». Et en fait, je me suis rendu compte en venant ici que finalement, pas tant que ça, et que beaucoup de gens ont des idées reçues, que ça soit sur... les moyens thérapeutiques, la médication, la prise en charge. Beaucoup de gens imaginent encore les grands murs blancs, les camisoles de force, toutes ces choses en fait où je pense que la société a encore une vision un petit peu archaïque de ce qui est de la prise en charge psychiatrique. Et du coup, je l'ai vraiment expérimenté en partageant autour de moi le fait que j'allais venir faire un stage en psychiatrie.
Et selon vous, qu'est-ce qui crée encore aujourd'hui, en 2026, cette crainte, ces appréhensions ?
Je pense que c'est la méconnaissance, parce que pour tout un chacun, il y a une tranche quand même limitée de la population qui vient une fois dans un hôpital psychiatrique. Et du coup, le fait que les gens ne connaissent pas, ne soient jamais venus en fait, dans ces lieux, forcément, c'est compliqué de se représenter. Si ce n'est par les images que retranscrivent les films ou la culture ou les échos. Donc on a forcément que des brides d'informations, on ne se rend pas vraiment compte de l'ensemble et surtout on ne l'expérimente pas en tant que tel, donc on va forcément avoir des biais ou des a priori. Je pense que c'est principalement ça.
Ben merci Gabriel, vous aviez envie de rebondir aussi sur ce thème.
Alors moi je trouve ça super d'entendre Lucien qui est en vrai vachement plus jeune que moi pour parler de la psychiatrie et de son regard. Moi j'ai commencé à travailler en psychiatrie il y a plus d'une vingtaine d'années et j'en fais plutôt un constat. Souvent les gens sont assez négatifs en disant les gens ont de plus en plus peur de la psychiatrie, les moyens sont de moins en moins importants. Alors c'est en partie vrai, mais d'un autre côté moi de mon expérience quand j'étais plus jeune c'était j'avais l'impression que c'était pire, qu'il y avait un imaginaire vraiment très glauque des hôpitaux psychiatriques, qu'il y avait un imaginaire très défensif vis-à-vis des usagers en santé mentale, comme quoi vraiment attention, il fallait se méfier, et puis d'un côté ils étaient agressifs, ils peuvent mentir, ils profitent, etc. Je trouve que la société, parce qu'elle se rend compte qu'elle est elle-même très en demande de soins en santé mentale, elle est obligée de se rendre compte que non, le malade mental, c'est pas l'autre, c'est tout le monde. Et je pense que ça aide globalement à se rendre compte que c'est quelque chose qui est partagé, qui est aussi facilement partageable que n'importe quel un rhume ou quoi que ce soit.
Mais vous avez raison de vos propos, et notamment, Lucien, vous avez raison, finalement, la méconnaissance. Hein. Et c'est pour ça qu'on a des associations comme le GRAP ou aussi l'Espoir qui, chaque année, vont à la rencontre. Là, on voyait qu'il y avait du 16 au 23 mars, on avait la semaine et la journée de la schizophrénie, hein, Elvio.
Oui, tout à fait, oui. Il y a aussi la CORASP, hein, faut pas oublier, oui. La fêtière de toutes les associations qui participent activement à la déstigmatisation, qui donnent des conférences, qui lient en fait, qui fait les liens, qui tisse les liens avec Santé Suisse. Et sans eux, il y a encore beaucoup de travail, hein, parce que actuellement, ben, vous le savez, je suis en fin de formation de père praticien en santé mentale, et on est beaucoup sollicité, de plus en plus sollicité, surtout sur le canton de Vaud. Oui. Ça serait bien que ça se développe en Valais, c'est un petit message d'ailleurs.
C'est un petit message qu'on lance. Alors il y a des choses qui se font, hein, Gabriel.
Je veux dire, coucou, c'est vrai.
Coucou, c'est vrai. Non, mais moi, j'avais été étonné il y a quelques années en arrière sur une des journées, je crois que c'était organisé par Sinasu Espoir, la journée sur la schizophrénie, où on était on avait un stand à la Migros de Martigny, et puis on avait ces petits écuissons verts, hein, pour sensibiliser, ces petits macarons, et puis on avait posé un stand, puis les gens avaient peur de venir, et puis vous me connaissez, à l'époque, je faisais presque déjà du micro-trottoir, j'allais vers les gens, je dis, bah, bonjour, vous savez ce que c'est la schizophrénie, vous savez pourquoi on est là. Puis les gens me répondaient la plupart du temps, ah ouais, c'est comme Hannibal Lecter, des déboulements de la personnalité. Je disais, non, ça n'a rien à voir. Mais oui, et c'était il y a 10 ans en arrière, donc on était même il y a 10 ans en arrière encore dans ces représentations. 10 ans après, bah, on a des radios comme Pavillon Nomade et comme partout en Europe, hein, qui donnent l'espace, la parole aux gens qui, finalement, on n'est pas schizophrène, on n'est pas un trouble de la personnalité, on n'est pas un trouble bipolaire, on est un être humain avec une souffrance psychique, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir avoir une position sur un thème, d'échanger, de discuter et d'avoir même par moments toute sa capacité de discernement. Saphir.
Oui, je trouve qu'il y a encore une très très grande barrière avec les gens. Puis c'est vrai que c'est pas facile aussi dans la sortie pour les patients, parce qu'on attend à se sentir soutenu par un peu la même chose que les patients. Et au final, on se sent un peu seul face des fois à la famille ou face à des personnes qui ont pas compris et puis qui vendent ça, enfin qui voient ça d'une façon encore archaïque.
Alors, on pourrait en faire un débat qui ferait encore couler beaucoup d'angles. Et j'espère qu'il y a encore beaucoup d'angles qui vont couler, et de spectacles ou d'échanges comme on a aujourd'hui pour changer cette représentation déstigmatisée. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale avec Isaline qui va nous interpréter en live. Et oui, en live ici pour les studios de Pavillon Nomade, la chanson de Oshi qui s'intitule « Femme à la mer ». Alors, le temps que notre technicien que je remercie, Pascal Vigolo, puisse nous contacter, et Isaline, qui a travaillé ses vocalises tout à l'heure, on a entendu, c'était magnifique. On vous laisse. Alors, c'est parti.
Je fume le cigare comme une cubaine.
le standard rempli de mes peines. Paumé dans les bouchons de liège, goutte après goutte, je m'abrège. Encore une fois, c'est ma tournée, pas la dernière de la journée. Je suis le reflet du n'importe quoi, même le miroir se moque de moi. J'ai passé ma nuit au comptoir, tout ça dans l'espoir de te voir. Je t'attends encore. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait un peu plus fort. Plus je bois, plus je vois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Plus je crois qu'on est tout seul avec soi, avec soi, avec soi, même si on n'en a pas l'air. Les amours tour à tour me mentent. Je prends des tournants, je me tourmente. Je fais des pas sans y penser, les démons m'invitent à danser. Une chorégraphie de comptoir sur un tango de désespoir, belle mise à mort. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait peut-être encore. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Même si on n'en a pas l'air. Deux âmes seules feront peut-être mieux. Deux âmes sœurs pourront renaître. Deux âmes seules valent peut-être mieux qu'une seule. Deux âmes, deux âmes. Plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie. Avec soi, même si on n'en a pas l'air. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie, je suis une femme à la mer. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je crois, plus je crois. Avec soi, avec soi, même si on n'en a pas l'air.
Bravo, bravo, bravo! Merci Isaline pour ce... Alors, on est un petit peu en écho, mais c'est normal, on est en live, on est en direct, et c'est ça aussi, hein, les directs. On ne vous ment pas ici, on est... très humain, très à l'écoute. Merci Isaline pour ce magnifique cover, c'est exceptionnel, hein, une très belle voix. Femme à la mer de Hoshi, qu'est-ce qui vous a fait choisir cette chanson, nous la proposer aujourd'hui ?
On peut dire que les lieux m'ont beaucoup inspirée et que depuis que je suis ici, autant les soignants patients et que les patients soignants m'ont donné envie de chanter, de créer et de retrouver... cette énergie créatrice qui m'a fait avancer tous les jours.
Eh ben, je suis content pour vous. On va dédier cette chanson à tous les professionnels de la santé, à tous les bénéficiaires de soins et à toutes les familles et tous les proches parce qu'on est tous unis. Et cette chanson, elle nous explique un petit peu et nous met tous en lien. À l'heure de la minute d'Elvio. Bonjour Elvio.
Bonjour, bonjour.
La minute d'Elvio. Alors, ça peut paraître incongru, mais je suis allé à la rencontre d'une Maury qui a été d'accord de se présenter. Donc, je me prénomme la Maury, je viens me présenter car ma saison a commencé. Chez nous en Suisse, j'existe essentiellement en deux espèces, la Maury blonde ou ronde et la Maury noire ou conique. On peut me confondre avec les verpes qui sont de ma famille et qui ont les mêmes recommandations que moi. Ne pas me manger cru au risque d'une intoxication. Il est préférable de me sécher car grâce à ce procédé, la toxine que je contiens est éliminée. Et d'autres champignons avec lesquels je ne peux être que confondu sont les gyromitres qui sont hautement toxiques, voire mortels. Alors évitez-moi. Parlons maintenant de mes endroits de prédilection. J'affectionne principalement les sols calcaires, sablonneux et les anciennes coupes de bois. J'apprécie les zones fraîches et humides, souvent près des frênes, ormes, pommiers sauvages, car je suis friande du glucose de leurs racines ou sous les conifères pour la Maury noire, car son sol acide, grâce à ses aiguilles, me plaît énormément. Cherchez-moi dans les lisières de bois, les bords de ruisseaux et les endroits ensoleillés, notamment là où le sol a été remué. Il est également des plantes qui peuvent être un bon indicateur pour me trouver, comme la primevère officinale, le lierre rampant ou l'arôme tacheté signalent un sol propice. Et voilà, je me suis dévoilé en espérant pouvoir bientôt satisfaire votre prospection ainsi que vos papilles. Bonne recherche et bon appétit.
Magnifique minute d'Elvio. Alors, ça nous a donné envie de, comme ça, un petit peu les papilles gustatives qui se mettent en action. Chanterelle, Maury, alors, il y a plein de noms. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, oui, c'est la bonne saison. Ça commence à être la bonne saison pour aller cueillir les champignons, mais n'est pas champignonneur celui qui veut. Hein. Tout ça doit se faire dans les règles les plus strictes. Si vous avez un doute, il y a des pharmacies, il y a des numéros de téléphone où vous pouvez aller faire contrôler vos champignons. Ce serait quand même dommage. Hein. Ce que vous pouvez risquer au pire, c'est une dysenterie, mais vous pouvez aussi risquer la mort. Donc, ce serait quand même bête d'avoir passé une belle après-midi d'automne. Alors, je ne fais pas le lien avec Billy the Kick et les gamins en folie. On ne parle pas même des mêmes champignons. Même qu'ils ont été utilisés quand même dans les soins, n'est-ce pas Gabriel ? La psilocybine est quelque chose qui a été utilisé.
Alors qui est encore utilisé
toujours, hein.
Et c'est un outil de recherche par rapport à la dépression, par rapport à, aux maladies liées au trauma, etc. La substance active, évidemment, c'est pas une excuse pour en prendre.
Ah bah c'est exactement ça. Je disais, c'est tout avec modération de toute manière. Et surtout, on ne prend pas des choses qui nous rendent encore plus mal qu'avant de les prendre. Ça, c'est important.
Je tiens juste à préciser aussi que j'ai une amie en fait, qui souffrait d'un SUDEC. Et c'est une maladie un peu particulière en fait, qui a quand même un lien neuronal et tout. Et maintenant, à la Souva, à Sion, ils utilisent la psilocybine en fait pour soigner les SUDEC. Et ça a des effets positifs.
Alors, je vous rassure à nos auditeurs qui nous écoutent, hein, les bruits qu'on entend, on est en dessous du raco, peut-être, c'est déjà les préparations de l'équipe qui est en haut qui organise cette résidence et qui font peut-être un peu plus de bruit au-dessus que d'habitude. Ne vous inquiétez pas, le monde ne va pas tomber sur nos têtes. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci à nos invités et à nos participants du jour. Un grand merci à Pascal Vigolo, à la technique. Je vous invite vraiment à aller découvrir The Idle Hour, spectacle de la compagnie Motus Murmuri le 11 et 12 avril au théâtre du Racco. D'ailleurs, c'est à le 11, c'est à 20h et le 12 à 17h. C'est ça, hein, Samuel?
20h30 le samedi.
Ah, 20h30 le samedi.
Et 17h le dimanche.
Et 17h le dimanche. Réservez vos places, hein, parce qu'elles partent comme des petits pains. Vraiment, allez voir ce magnifique spectacle. Merci encore, Samuel, d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle escale sur les ondes de Pavillon Nomade. On se quitte en musique avec un morceau de reggae qui s'intitule Rock a Down de Vanupier. Bye.
Just to find a better way we fight. This is the jumping funny pin of the shop PlayStation. Doing this the muse of them.
But they are nine with my single music. We all of them with my single but my music. This is a song of blowing up to my mind. This is a song of blowing up to my soul.
Let you have them for no reason. When the voice give you emotion. Because of music, rocking my world
is never getting old. They're never getting old. I want me to say that me die and not me singing about my reggae.